Les nazis nous ont inoculé la conviction d'être rien, puisque nous n'étions que des juifs. J'étais mortifiée de n'être rien. Avec la force qui me restait, je n'ai jamais cessé de me dire, j'existe parce que je vis, je pense, et ma pensée, personne ne peut la lire en moi, même pas nos tortionnaires. J'ai partagé le destin de ces milliers de riens. Je les ai vus s'entretuer pour un morceau de pain, pour une épluchure de pommes de terre, pour une place. J'ai vu aussi la bonté dans ce dénuement.
Voilà, c'était la voix et les propos de Magda Hollander Lafont qui lisait un extrait d'un écrit qu'elle a publié récemment et que vous avez lu, Gabriel de Sarzan.
Oui, un écrit qui nous permet d'entrer dans cette réalité des camps sur la pointe des pieds. Je me souviens d'ailleurs à ce propos des mots d'un directeur d'ONG qui disait que la souffrance des hommes, c'est comme une terre sainte. On y marche à pied, déchaussé et non pas avec des gros sabots. Et c'est dans cet esprit-là que je vous propose d'entrer dans l'entretien d'aujourd'hui qui parle de la vie des camps, de cette réalité concentrationnaire et de la présence ou non de Dieu au cœur de l'horreur.
Alors on va le préciser pour les personnes qui n'auraient pas entendu les premières émissions de la semaine. Magda Hollander Lafont est une femme de 85 ans qui a survécu au camp de Auschwitz-Birkenau et qui a décidé de publier tout récemment un livre intitulé « Quatre petits bouts de pain » publié aux éditions Albin Michel. Alors on va vous entendre avec Magda Hollander Lafont. Vous revenez précisément sur l'extrait qu'on a entendu, qu'elle lisait elle-même.
Magda Hollander Lafont, vous dites avoir perdu toute identité dans les camps, avoir intégré la notion d'être rien au milieu de milliers de rien, que parmi ces riens, il y avait des croyants et des incroyants. Mais des croyants en quoi? En qui?
D'abord, je ne dirais pas que je me suis considérée comme rien, parce que j'étais très révoltée. Quelqu'un qui a capacité de haïr et de révolter, ce n'est pas un rien, c'est quelqu'un qui est vivant. Celui qui est capable de haïr, je dis aujourd'hui, c'est celui qui a des sentiments et qui est capable d'aimer. Mais nous nions ce sentiment parce que ce n'est pas valorisant. Au contraire, je trouve que vraiment il faut sortir de soi cette haine qui est bien là en nous, en chacun de nous, pour retrouver en nous-mêmes le vrai nous-mêmes. Cette haine venait justement parce que on nous considérait comme des riens. Et on n'est pas rien quand on se débat pour vivre, même si nous sommes affamés, assoiffés. Et vous ne pouvez pas imaginer ce que c'est d'avoir faim et d'avoir soif. Et en 15 jours, nous n'étions déjà plus du tout des êtres humains. Souvent, Birkenau, on n'en survivait pas plus d'un, ce maximum, un mois. Et je suis restée à Birkenau pendant 3 mois. Mais justement parce que j'étais révoltée que quand je voyais disparaître mes frères et sœurs dans la chambre à gaz et qui priaient jusqu'au bout, est-ce que les riens peuvent prier?
Justement, est-ce qu'on peut croire au milieu de l'horreur?
Eux, ils croyaient, mais moi j'étais révoltée contre ce Dieu-là qu'ils priaient, parce que je me suis dit, depuis le temps qu'ils prient, et ici on est enfermé, comment est-ce possible qu'il existe un Dieu qui ne vient pas au secours de tout ce que nous étions perdus là-dedans? Après, cette prière-là, c'est vous arracher le cœur. Même quand je parle aujourd'hui, j'entends. J'entends cette voix implorant. Et personne ne vient à votre secours. Ça, alors, ce Dieu-là, j'ai réglé son compte. Oui, décidément, oui. Et mon Dieu, que peut-être c'est ma révolte contre lui, m'a permis aussi de survivre. Parce que quand vous révoltez contre quelqu'un, c'est qu'il y a quelqu'un qui existe, et moi aussi j'existe, puisqu'il y a en face de moi quelqu'un. En face de nazi, vous n'étiez rien, mais en face de lui, puisque je détestais, eh bien j'existais. Donc, voyez, toute cette révolte-là, c'est un signe d'existence, mais c'est à vous pacifier après.
Mais vous écrivez, comment pouvait-on prier avec tant de ferveur un Dieu insensible à ce point? Donc, c'est des paroles de colère. Est-ce que vous avez trouvé la réponse?
Je ne cherchais pas la réponse, c'était inconscient. Quand vous êtes dans une telle vie, vous êtes inconscient, vous agissez par instinct de survie et vous agissez par intuition. Donc, c'est aujourd'hui que je le dis.
Mais est-ce que vous comprenez aujourd'hui que vos frères et sœurs pouvaient prier un Dieu qui visiblement ne répondait pas? Est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez le comprendre?
Mais bien sûr. Mais bien sûr que je comprends aujourd'hui. Dieu nous a créés libres. D'ailleurs, il est dit que Dieu n'a pas achevé la création. Il est dit dans la Bible, c'est un commentaire, qu'il est dit que Dieu n'a pas achevé la création pour que chacun de nous, nous puissions la parachever. Donc, quelle part extraordinaire Dieu nous donne. Donc, ce qui est arrivé, ce n'est pas Dieu qui a voulu, c'est l'homme, c'est nous, entre nous. C'est le pouvoir. C'est parce que l'homme, surtout, voulait se substituer à Dieu. Regardez Hitler, il ne supportait ni les catholiques ni les protestants. C'est lui-même, c'est de l'idolâtrie. C'est l'idolâtrie de l'homme qui renie Dieu, qui emmène cette décadence, cette horreur.
Donc Dieu prenait quand même des sacrés risques en laissant à l'homme le soin de parachever sa création.
Oui, d'ailleurs il a recommencé la création deux fois. La première fois, il a douté, est-ce que je vais créer l'homme? Il n'a pas douté pour créer la lumière, la nuit, le soleil, les animaux, il n'y avait pas de doute. Mais le doute s'est apparu au moment où il a créé l'homme. Et il s'est dit, ah, est-ce que je vais le faire vraiment? Mais quel merveilleux risque il a pris de nous créer. Donc c'est extraordinaire. Donc il nous donne cette force intérieure qui me dépasse souvent, de transcender la réalité. Je me disais chaque fois que dans ces misères-là, il y avait des gestes humains. Par exemple, un jour, je perdais connaissance parce que j'avais soif, parce qu'on nous a pas donné à boire. Le capot s'est lavé dans notre café du matin, dans l'eau chaude, et que je suis tombée. Donc, déshydratation, ça signifie que votre langue enfle, que vous ne pouvez plus respirer. Et puis, j'ai ouvert mes yeux et quelqu'un à côté de moi, je ne sais où elle a pris de l'eau, mais il fallait faire très doucement, par goutte à goutte, de mettre cette eau dans ma bouche pour ne pas m'étouffer. Et puis, je ne sais pas où elle a pu trouver l'eau, mais j'ai ouvert les yeux. Et j'ai vu un regard qui s'est appliqué à mettre des gouttes dans ma bouche pour que je ne meure pas. C'était vraiment un geste d'une immense gratuité. Je n'ai même pas pu dire merci. Donc voyez que dans un immense dénouement, on aurait pu me laisser morte sur le terrain. Pourquoi l'Éternel a voulu? Pourquoi? D'où vient? Pas pourquoi, comment cela se fait-il que j'avais juste à côté de moi quelqu'un qui gratuitement a fait le geste de me faire renaître à la vie, de m'aider à continuer.
À vous relever.
À me relever, oui. Oui, exactement, à me relever. Un geste comme ça, de l'homme, ça vaut le coup de vivre. D'ailleurs, il a dit aussi dans la sagesse, il a dit que si vous sauvez un être humain, vous sauvez l'univers. Si vous tuez un être humain, vous tuez l'univers. Donc, quelle importance à l'homme, chacun de nous, entre nous sur Terre. Et nous aussi, nous avons à nous donner cette importance. Si vous êtes sur Terre, c'est que vous êtes important. C'est à vous, c'est à nous à apprendre, faire œuvre de vie, de notre vie.
Vous parlez dans dans votre livre, de Dieu comme de celui qui vous a toujours tendu la main.
Oui.
C'est vrai?
Oui, il m'a tendu la main par quelqu'un d'autre. Parce que chaque fois, quand j'étais au désespoir, c'est à ce moment-là, par exemple, à un carrefour où je voulais me supprimer parce que, à la libération, jamais je ne voulais me supprimer dans les camps. Mais c'est quand je suis devenue libre que cette liberté-là ne me parlait pas parce que c'est là que j'ai découvert que j'étais toute seule. Et que faire moi toute seule dans cette vie? Et j'ai trouvé, les Américains ont perdu une petite trousse de pharmacie et là-dedans il y avait du poison et je me le suis gardé. Je me demande pourquoi je me le suis gardé. Et là, cette fois-ci, j'ai dit c'est fini parce que cette vie-là, je n'ai pas envie de vivre. Et à un carrefour, il y a une personne qui est venue vers moi avec un magnifique sourire. Je ne comprenais pas un mot de ce qu'elle me disait. Elle m'a pris par la main avec un grand sourire et j'ai fait demi-tour. Je me suis dit, oh, si les êtres humains peuvent avoir un si beau sourire, donc ça vaut le coup de vivre. Donc c'est un sourire qui m'a sauvée. Donc, et nous, quand les jeunes me demandent, Magda, qu'est-ce que nous pouvons faire pour témoigner de notre vie, je peux leur dire que vous avez un regard. Personne ne peut le dire qu'il n'a pas. Et vous savez qu'avec ce regard que vous avez, vous pouvez tuer votre voisin ou vous pouvez faire naître à la vie. Et si vous ajoutez un sourire, mais vous donnez à la personne des ailes. Donc voyez, c'est si peu et c'est tout.
À Auschwitz, je crois, vous avez reçu de la main d'une mourante 4 petits bouts de pain moisis pour que vous viviez, vous, et que vous puissiez témoigner par la suite, afin que pareille horreur ne se reproduise pas, c'est ça?
Absolument. Mais à l'époque, je n'ai pas compris. C'était 4 petits pains moisis. Elle ne pouvait pas le manger parce que déjà elle était déshydratée. Quand vous êtes déshydratée, vous ne pouvez plus avaler. Votre bouche est sèche. Vous ne pouvez rien avaler. C'est pour ça qu'il faut faire très doucement. Et puis elle a ouvert ses mains, elle m'a dit « Tu dois vivre, tu es jeune, tu dois vivre et dire au monde ce qui se passe ici pour que ça n'arrive plus au monde. » Elle n'a pas dit que ça n'arrive plus aux Juifs, elle a dit « Plus au monde ». Et je n'ai pas compris ce qu'elle voulait me dire. Je me dis, je vais mourir 2 minutes après. Notre vie ne nous appartenait pas. 2 minutes après, un nazi me prend et puis ça y est, ma vie est terminée. Alors je me dis, comment elle pouvait me dire ça? Je ne comprenais vraiment pas. Mais j'ai senti le poids de ce qu'elle disait. Mais je me suis dit à moi-même, non, c'est pas possible. Ça n'empêche que j'ai oublié, mais à quel point j'étais marquée. Voyez combien notre corps absorbe tout. Notre corps a une mémoire indélébile.
C'est-à-dire vous avez oublié cette histoire pendant des années?
Des années. Je ne me suis souvenue qu'en 78, d'Archiepel Poix, le commissaire aux questions juives, et qui a dit en Espagne qu'à Auschwitz, on n'a gazé que des poux. Vous imaginez que chaque être humain, si le juif est un pot, c'est que chaque être humain peut être réduit à un pot. Alors je ne pouvais pas supporter. Et c'est à ce moment-là, vous voyez, un événement fort peut faire remonter en vous une situation que vous avez refoulée à un certain moment. Et cette femme est revenue le soir quand j'y ai pensé. Elle est venue sans que j'y pense. Elle est remontée, je l'ai vue devant mes yeux et les paroles, je l'ai entendues. J'ai entendu ces paroles-là, j'ai re-entendu ces paroles-là. Me dit, tu dois vivre pour dire au monde. Oh, je dis, Magda, tu peux plus rester maintenant sans témoigner. Et mes amis autour de moi m'ont tous accompagné, parce que toute seule, vous ne pouvez rien. Ensemble, nous pouvons déplacer des montagnes. Donc, avec l'aide de mes amis autour de moi, moi qui ne sais pas bien parler, je suis beaucoup plus quelqu'un de silencieuse. Eh bien, grâce à l'encouragement, j'ai commencé à témoigner. Mais comme je voulais pas témoigner n'importe comment, il fallait que j'invente ma manière de transmettre.
de se remémorer cette histoire des années après, cela vous a donné le courage de prendre la parole.
Oui, et j'ai élaboré un questionnaire, parce que moi j'étais dans l'impossibilité de transmettre toute cette horreur qui est intransmissible. D'ailleurs, Hitler voulait nous infliger un traitement qui est intransmissible, pour que personne ne puisse nous croire. Donc, comment transmettre qui dépasse toute l'imagination? Alors je me suis dit, si Hitler a inventé, qui a imaginé des faits, des réalités pour exterminer l'homme, pour tuer l'homme, nous pouvons aussi inventer, mettre notre vie, imagination, au service de l'homme. Donc, ça m'a dit, comment mettre moi-même au service de ces jeunes-là que je vais rencontrer, mon témoignage sans les blesser, sans les décourager. Donc, j'ai élaboré un questionnaire, parce que pour moi, les questions sont importantes. La réponse, déjà, doit appeler une autre question. Alors, j'ai élaboré un questionnaire que j'ai demandé au professeur s'ils étaient d'accord de distribuer ces questions. Les élèves ont répondu. Nous avons dépouillé leurs réponses ensemble et je venais avec leurs questions. Et la question des jeunes s'est inscrite toujours dans leur vie. Donc en me posant la question, ils se livraient eux-mêmes là où ils étaient. Donc à partir de là, je pouvais ajuster mes réponses. Je pouvais ajuster mes réponses, essayer de ne pas dire ni trop, ni trop peu, mais être bien vrai pour ce qu'ils peuvent entendre aujourd'hui, de ne surtout ne pas les décourager, mais surtout les appeler à la vigilance, là où ils sont incarnés, dans leur famille, dans les classes, là où nous sommes aujourd'hui.
Magda Hollander-Lafont, vous êtes devenue insensible aux émotions, indifférente au corps sans vie qui vous entourait quand vous étiez dans les camps. Comment est-ce que les émotions sont revenues? À quelle occasion?
Les émotions que vous refoulez, c'est de survie. C'est pour survivre. Parce que si j'avais laissé monter en moi, je sentais bien quand on m'avait dit... Quand j'ai demandé où ils étaient mes parents et que le capot m'a répondu qu'ils étaient dans les flammes là-bas, j'ai eu un choc énorme, un nouveau blanc. Et je sentais que si je laissais rentrer cette émotion, ce choc-là, je devenais folle. Et je le sentais. Donc heureusement que pour survivre, nous refoulons ces sentiments en nous, dans la profondeur de nous-mêmes, pour survivre. Sinon, nous devenons fous. C'est impossible de vivre sans ça. Donc, c'est un formidable instinct de survie. Évidemment, vous ne pouvez pas d'autre vie vivre sous cet instinct de survie. Ça, c'est sûr. Mais là-bas, évidemment, ça, vos sentiments, vous les refoulez. Parce que c'est impossible. Et puis, qu'est-ce qu'ils primaient? Il fallait trouver de la nourriture, il fallait manger, sinon vous mourrez. Alors nous nous volions, vous savez, quand on vous réduit à un état de famine, vous ne pouvez pas vous-même imaginer ce dont vous êtes capable. Et puis j'ai compris qu'il y avait en nous, chacun de nous, le meilleur et le pire. Et c'est nous qui en sommes responsables. Mais quand vous êtes dans une situation extrême, c'est votre instinct qui prime sur vous. Les jeunes m'ont posé la question, mais Magda, pour vous dire, si tu rencontres un SS, qu'est-ce que tu ferais? Alors je leur répondis, mais d'abord je ne sais pas si je les reconnaîtrais, Et deuxièmement, j'espère qu'après tout le travail intérieur que j'ai fait sur moi-même, que j'agirai humainement. Mais il y a des moments où nous sommes pulsionnellement emmenés à tuer. Les émotions, vous ne cherchez pas pour faire revenir. Ça revient naturellement. Mais vous ne savez pas du tout où ça s'inscrit. C'est toute ma vie, j'ai cherché où s'inscrivaient mes émotions. Parce que mes émotions étaient tout ce qui est pour moi, les réactions disproportionnées et qui se répètent sont inscrites dans une blessure. Alors j'étais très attentive de mon comportement. Par exemple, pour aller à la gare, je voulais toujours être une heure avant à la gare. Et tout le monde s'est fichu de moi en disant « Magda va une heure avant à la gare ». Et pendant des années, je ne savais pas pourquoi, mais il fallait que je sois une heure avant à la gare. Et puis un jour, je me dis « Mais Magda, vraiment à la gare, pourquoi tu vas une heure à l'avant ?» Et ils montent de vous de l'intérieur. Mais nous étions embarqués sans crier gare. Nous étions déportés d'un jour à l'autre dans des wagons bestiaux. Et c'était vraiment inattendu. C'est inimaginable. Donc quand je vais prendre le train, j'ai eu toujours en moi ce sentiment que, comment vais-je revenir? Est-ce que je vais revenir? Donc à partir du moment où j'ai compris que j'avais en moi cette peur que j'ai refoulée, eh bien, dès que j'ai compris, à partir de ce moment-là, je pouvais tout doucement le canaliser. Je peux arriver une demi-heure à l'avant, un quart d'heure à l'avant, et tout doucement, je savais que je n'étais pas en danger. Mais ça a duré très longtemps. Et il y a en nous ces réactions disproportionnées qui reviennent sans arrêt. C'est inscrit pour moi toujours dans une blessure existentielle. Comme la haine aussi. Bien sûr, vous avez le droit d'avoir la haine. Vous haïssez le mal. Mais à partir du moment où j'ai haï le mal, bien sûr, c'est une horreur. Mais je me suis demandé, mais je hais quoi? Je finissais par haïr moi-même. Cette haine-là des autres, vous le tournez contre vous. Et puis une fois que vous avez compris que cette haine-là, il faut que ça sorte de vous.
Mais ça marche? Après, on est libéré?
Absolument. Et alors là, vous le connaissez et ça devient vraiment des étapes très importantes. Vous devenez beaucoup plus libre de vous. Vous savez que c'est inscrit quelque part dans une blessure et que dès que vous trouvez cette blessure-là et que vous cherchez où ça se trouve, eh bien, à partir de ce moment-là, vous reprenez goût de votre vie. Et ça devient passionnant. Elle devient passionnante. Et la vie est passionnante. Et c'est à nous, nous-mêmes, nous aider à retrouver en nous-mêmes le goût de, pas la vie, mais le goût de notre vie. Que souvent par des blessures, nous finissons par punir nous-mêmes de vivre.
Magda Hollander-Lafont, à votre micro, Gabriel Le Sarzan. On le comprend, c'est important pour elle d'insister sur le fait de retrouver soi-même un goût à sa vie.
À sa vie, oui, pas seulement à la vie, mais à sa vie. Et puis, on l'a entendu parler de ces personnes qui ont été là aussi pour lui redonner goût à l'existence, ou bien pour lui permettre concrètement de vivre. Je pense notamment à cette personne mourante qui lui a donné ses 4 petits bouts de pain moisis à Birkenau, et puis qu'elle a évoqué aujourd'hui. Un geste qui lui est revenu à l'esprit des années plus tard, comme un flash, et dans lequel elle discerne comme une présence divine.
Et c'est le titre qu'elle a choisi pour son livre, 4 petits bouts de pain, publié aux éditions Albin Michel et que vous avez lu. Demain, on va poursuivre cette rencontre avec vous et Magda Hollander-Lafont. Sur quelle thématique, sur quel épisode de son existence?
Alors, je vous propose de sortir des camps et de parler de ce qu'elle a vécu à sa sortie de Birkenau à Auschwitz. Et puis, comment est-ce qu'elle a dû s'y prendre pour se reconstruire, pour imaginer un avenir?